La Terre parle à travers la voix d'artistes aborigènes australiens. Eh bien, c'est la nouvelle exposition à l'Alliance française de Sydney jusqu'au 18 décembre. C'est une exposition d'art qui met en vedette certains des plus grands artistes aborigènes australiens contemporains. Bénédicte Belzing est la fondatrice d'Everyone Arts, une société basée à Sydney et à Paris qui vise à promouvoir la qualité et l'éthique de l'art aborigène australien, par l'éducation, la conservation, l'exposition et puis son éthique. Nous avons le plaisir de la recevoir sur les ondes de SBS en français. Bénédicte, bonjour.
Oui, bonjour Johanna.
Alors, parlez-nous un peu de cette exposition. Comment est-ce que l'idée a-t-elle commencé?
Oui, tout à fait. Ce qui décrit bien finalement le contenu de l'exposition, c'est son titre lui-même, The Land is Talking, trois petits points, Through the Voices of the Aboriginal Artists. En fait, pour l'anecdote, j'avais choisi le titre de Land is Talking parce que j'avais envie de parler et de transmettre la relation très forte qu'ont les aborigènes d'Australie avec leur terre, mais aussi avec le ciel, avec l'eau, cette relation forte et ancestrale, la plus ancienne culture continue au monde. Et par les temps qu'on connaît aujourd'hui, les questions environnementales auxquelles on fait face, en ce moment particulièrement les feux de forêt, j'avais envie de dire... Écoutez-les, ils connaissent cette terre depuis bien longtemps et l'art, finalement, c'est la meilleure manière qu'ils ont de partager leurs connaissances et leurs histoires avec nous. J'ai rajouté la petite phrase en dessous à la suite d'un événement qui s'est passé à Adélaïde, à l'ouverture d'un festival que je recommande d'ailleurs à tous, qui s'appelle Tarnanti, au musée d'Adélaïde. Un ancien et un leader très respecté a fait un speech dans lequel il disait « The land cannot talk ». Et je me suis dit, oups, c'est dommage, c'était mon titre. Et finalement, ça tombait bien, puisque c'est justement parce que les arbres, parce que la terre ne peuvent pas parler, que nous avons besoin de parler à leur place, de parler pour eux. Et qui peut mieux le faire en Australie que ceux qui les connaissent et qui prennent soin de cette terre depuis quasiment 60 000 ans.
Et qui sont les artistes? Quelles sont les œuvres?
Alors, j'ai beaucoup voyagé avant l'exposition. Pour aller sourcer effectivement des œuvres dans des régions différentes, parce qu'il était important pour moi aussi de montrer à travers cette exposition qu'il existe des formes d'art extrêmement diverses en Australie, loin des clichés ou des toiles un petit peu convenues que nous, notamment en Europe, on connaît beaucoup, les peintures pointillistes, topographiques par exemple. Donc j'ai voyagé en terre d'Arnhem beaucoup, à Elko Island et à Irkalla, qui est tout à fait à l'est de la terre d'Arnhem, d'où j'ai rapporté des sculptures, des peintures sur écorce, des troncs funéraires, les îles Tiwi qui sont près de Darwin avec des très belles peintures mais qui sont faites avec des pigments naturels, le désert central, donc autour d'Alice Springs, là on va retrouver des peintures acryliques sur toile, donc qui nous sont plus familières, mais j'ai essayé d'être un petit peu de faire un choix un petit peu différent. Et puis aussi, donc il y a beaucoup de stars, entre guillemets, dans cette exposition, des artistes seniors qui sont déjà extrêmement bien reconnus. Et puis j'ai voulu aussi défendre des artistes émergents, et notamment du New South Wales. Je pense à Andy Snellgar et Jamie Lee Trindell, qui travaillent dans le nord du New South Wales, indépendamment, et qui font de très beaux objets.
Alors, comment est-ce que des communautés aborigènes parfois reculées accueillent-ils une Française blanche qui n'est pas arrivée il y a très longtemps en Australie et puis qui veut promouvoir leur travail? Donc, comment ces communautés réagissent et comment se passent les rencontres?
Ce sont toujours des moments extrêmement émouvants, en fait, extrêmement forts pour moi. Alors, comment ça se fait et comment ça se prépare? C'est heureusement, je suis très aidée par les managers des centres d'art. La manière dont est organisé ce milieu aujourd'hui est la suivante. Vous avez des centres d'art qui appartiennent aux communautés aborigènes, qui sont gouvernés par des communautés aborigènes, par les seniors en général de la communauté, qui sont une sorte de board, de conseil, qui prennent toutes les décisions. L'argent leur revient et souvent, en revanche, le staff et les managers sont des occidentaux, des Australiens occidentaux qui sont des gens extrêmement engagés, extrêmement dévoués, extrêmement passionnés. Et donc ce sont eux en premier qui font l'intermédiaire entre moi et les communautés. On organise mes déplacements ensemble, on prépare ensemble. Et puis lorsque je viens sur place, ils servent quelque part de courroie de transmission et parfois surtout d'interprète. parce que dans certaines générations, les jeunes générations étaient à l'école australienne et ont appris l'anglais, mais avec les plus anciens, on ne se comprend pas, bien sûr. Donc il se passe des choses sans le langage, heureusement, et c'est ça qui est magique. Mais grâce aux gens qui travaillent dans ces centres d'art, je peux dialoguer, ils servent d'intermédiaire.
Retour sur l'exposition. Donc il y a des tours en anglais et en français jusqu'au 18 décembre.
Oui, tout à fait. Ça, c'est important parce que j'ai vraiment voulu proposer quelque chose de plus qu'une exposition. On vient voir à la pause entre midi et deux, c'est joli, on repart. Comme justement, il y a précisément beaucoup d'histoire et beaucoup de contenu et de signification derrière toutes ces œuvres, comme ça n'est pas du tout pareil, celles qui viennent du nord du pays, une terre très riche, très boisée, très humide, celles qui viennent du désert et celles qui viennent des zones un petit peu plus citadines, il faut pouvoir expliquer et partager. Et comme le but de l'exposition, c'est précisément de partager ce que je sais et ce que nous disent nos artistes aborigènes, j'ai prévu des visites guidées, donc tous les lundis, mercredis et vendredis, alors à midi en France, en anglais, donc ça dure à peu près 50 minutes, et puis à 13 h en français.
Alors, parlez-nous un peu de votre parcours. Quand est-ce que vous êtes arrivé en Australie? Pourquoi avoir choisi d'y rester? Et puis, à quel moment avez-vous décidé que l'art et la culture aborigène allaient faire partie de votre vie?
Alors, je suis arrivée en 2015 en Australie, à vrai dire une décision familiale. C'est mon mari qui a eu l'opportunité de travailler ici. On a tous suivi. Et puis, je crois que c'était peut-être déjà en moi, j'avais une curiosité, parce qu'en France, on a la chance d'avoir de beaux musées comme les Confluences à Lyon ou le Quai Branly, bien sûr. J'avais vraiment une connaissance, on va dire, superficielle de la culture aborigène, mais je ne sais pas, intuitivement, c'est la première chose qui m'a intéressée ici. Pour moi, c'est un trésor australien, cette culture si ancienne et si riche. Elle n'est pas forcément très visible parce que nous, occidentaux, nous sommes habitués pour comprendre une culture à avoir soit des livres ou des écrits, de la poésie, soit à avoir des monuments. Dans le cas des aborigènes, c'est une culture purement orale, mais d'une énorme richesse spirituelle pour autant. Mais faut aller la chercher. Donc, je pense que spontanément, je me suis dit, j'ai envie de connaître ce monde-là. Et puis après, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, en fait, et j'ai pendant environ 3 ans, je suis autodidacte, on peut dire ça comme ça. Donc je me suis formée moi-même, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai travaillé avec une organisation qui n'existe plus, mais qui était là à l'époque, qui s'occupait de promotion de l'art aborigène. Et puis, il y a un petit peu plus d'un an, je me suis encouragée aussi beaucoup par mon entourage. Je me suis dit, mais cette passion, pourquoi tu ne la partages pas de façon plus professionnelle? Et c'est ce qui m'a décidé à créer cette structure Everywhen, à proposer des services, donc comme vous le disiez dans votre introduction, d'éducation, donc des conférences. Et puis, je fais des visites guidées en français aussi à Sydney, dans le principal musée, l'Art Gallery New South Wales, pour expliquer le contenu de la collection d'art aborigène qui est très très intéressante et très vaste. Et puis des expositions ventes parce que je crois que c'est important aussi de proposer la vente des œuvres qui sont authentiques, qui sont éthiques et qui sont de qualité.
Et dernière question, comment éviter d'acheter du faux parce que c'est facile de se faire avoir?
Ah oui, tout à fait, c'est un vrai problème parce qu'aujourd'hui la survie de cette culture passe par une forme d'autonomie et d'indépendance financière. Or, l'art est vraiment une source de revenus très, très importante pour ces communautés. Lorsqu'il y a un artiste qui a beaucoup de succès, à lui tout seul, il peut permettre de faire vivre 20, 30, 40 personnes. Donc, c'est extrêmement important d'acheter de façon éthique et authentique. Alors, je distinguerai deux sujets. Il y a le sujet de l'art et le sujet de l'artisanat. En ce qui concerne l'art, les centres d'art que j'ai mentionnés précédemment sont le moyen le plus fiable, on va dire, d'acheter sereinement. Donc, si vous achetez une œuvre qui est émise par un centre d'art, vous êtes sûr que vous n'allez pas faire une erreur en termes éthiques et authentiques. Ils vous donneront systématiquement un certificat d'authenticité avec un numéro de catalogue. Comme vous le savez, les œuvres aborigènes, elles ne sont pas signées puisqu'il n'y avait pas d'écriture. Donc, en fait, pour savoir si elles sont authentiques, il faut qu'elles soient répertoriées quelque part, avec un numéro qui en général est au dos de la toile ou au dos de l'écorce selon le cas. Donc, Un centre d'art, c'est le meilleur moyen. Mais il n'y a pas que les centres d'art. Il y a aussi, on peut, par exemple, je citais des artistes tout à l'heure dans le New South Wales avec qui on travaille directement. En fait, il faut faire une sorte de screening, comme une liste de questions. D'où il vient? Est-ce qu'il a été exposé dans des musées? Est-ce que, il est quelque part reconnu par la communauté? Moi, c'est quelque chose que je fais, c'est un conseil que je fais totalement gratuitement pour tout le monde, toutes les personnes qui viennent me voir. J'utilise cette méthodologie, donc de savoir, en fait, c'est la provenance. Et puis, quel document me certifie la provenance? Donc, la provenance, centre d'art ou autre, mais ensuite, comment cette œuvre est répertoriée et par qui? Est-ce que c'est sérieux? Et pour ça, il faut vérifier un certain nombre de critères que, par exemple, je peux communiquer si on me le demande avec grand plaisir et de façon totalement, totalement gratuite. Quant à l'artisanat, là, évidemment, ça va être plutôt. Où vous l'achetez aussi, donc on parle de niveau de provenance. Donc typiquement, regardez l'étiquette, si c'est made in China ou made in Indonesia, c'est pas la peine. Aussi, l'artisanat, vous en trouverez, aujourd'hui il y a une charte dans les boutiques des musées, vous aurez systématiquement des œuvres qui sont sourcées de façon éthique. Donc par exemple, le musée d'art contemporain à Sydney ou la Art Gallery, ils ont de très jolies boutiques avec des choses intéressantes. Il existe aussi le Black Market qui a lieu tous les mois à Sydney. Souvent à la Pérouse et parfois il est au terminal des bateaux de croisière à Circular Quay. Donc c'est sur Internet, Black Market, BLAK. Et puis oui, vérifier les étiquettes et surtout ne pas acheter je sais pas, dans des endroits où c'est très très probablement faux, par exemple Paddy's Market ou les boutiques des quartiers touristiques. Il y a peu de chances que ce soit quelque chose d'authentique. Mais donc, regardez l'étiquette, où est-ce que c'est fait et par qui. Et vous pouvez aussi googler, lorsque vous voyez le nom du producteur, vous pouvez tout simplement sur votre téléphone googler. Et normalement, ceux qui ont une approche éthique, bien sûr, c'est la première chose qu'ils disent sur leur page. Nous avons des standards et nous les respectons.
Bénédicte, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS en français.
C'est moi qui vous remercie, Johanna. Merci beaucoup.